il y avait l'histoire de Russell et son paradoxe qui a un peu mis le foutoir à un certain temps, donc ça a vraiment effrayé tous les gens qui s'intéressaient à
mais ça n'a pas bouleversé toutes les mathématiques, c'est juste.
Bah, quelque part, bon, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ne se sont même pas aperçus qu'il y avait eu une crise. C'est autour de 1900.
99% des mathématiciens se sont pas aperçus qu'il y avait une crise.
Mais en même temps, quelque part, il y avait quand même à l'époque des tas de. Par exemple, après j'ai mis le mot de Cantor, parce qu'il se passait quand même à l'époque, si jamais on en est venu à cette quête des règles de raisonnement les bonnes, et qu'il a fallu d'abord faire un essai qui n'a pas marché, ça a été la crise, il a fallu passer à une autre version, c'est parce qu'on arrivait aussi à manipuler des objets, là on parlait des objets, on était à un moment où on commençait à manipuler des objets qui sont plus du tout des noms sympathiques, des choses habituelles. Déjà, quand on parlait de dérivés, déjà à l'époque ça commençait déjà à grincer parce que quand on parle de dérivés, quelque part on est en train de dire ce que va grandir la fonction quand on va faire un tout petit mouvement. Et les tout petits mouvements, déjà il y a plein de mathématiciens qui s'étaient cassé la gueule en essayant d'imaginer ce que c'est que ces tout petits mouvements infinitésimaux qui correspondent à l'évolution de la fonction sur un tout petit chouïa. Déjà à l'époque on pouvait abattre des jolis raisonnements faux, des jolies contradictions en utilisant ce genre de notions. Quand on a parlé d'intégrale, ça a été encore pire. L'intégrale, si jamais vous n'avez pas encore croisé, c'est quelque part l'inverse de la dérivation, faire les choses à l'inverse. Mais donc, à l'époque, oui, pour résoudre des problèmes de physique, ils étaient passés par des choses étranges. Donc, ici, c'est des histoires de tout petits intervalles dans lesquels la fonction va grandir un tout petit chouïa. Et donc, il y avait des énormes problèmes de fondation. Et après, donc ça a été vaguement règle résolue par l'habitude. Les gens savaient qu'il fallait pas faire ça, sinon ils se pétaient la gueule. Il fallait rester dans un cadre à peu près bien balisé. S'ils sortaient du chantier balisé, ils explosaient. Donc déjà, c'est assez rigolo de se dire, un mathématicien doit faire telle chose et pas telle autre. Et pourtant, les deux ont l'air d'être à peu près normal. Donc là, c'est pour ça aussi qu'ils cherchaient des règles de raisonnement, et cherchaient des fondations sûres. Et après, derrière, donc ça, c'était déjà un peu limite. Par contre, après, c'était vraiment parti en vrille, c'est quand des gens comme Cantor sont allés se demander ce que c'était que l'infini. Ce que c'était que des choses infiniment grandes. Et en particulier, ce que c'est que des ensembles infinis. On obtient des trucs qui sont relativement paradoxaux. Il y avait plein de gens à l'époque qui disent non, il y a un problème. C'est pas possible d'avoir une fonction continue qui n'est pas dérivable. Donc c'est pour clarifier aussi ce genre de truc étrange. S'ils l'ont appelé la fonction du diable, c'est pas juste pour dire ça a l'air d'être étrange. C'est parce qu'ils croyaient vraiment que ce genre d'objet était diabolique. Non, là j'ai plutôt envie de revenir sur Cantor, qui, pareil, sur les histoires d'infini, là aussi a amené des vrais soucis et des vrais gens. Il y a vraiment des gens qui ont pris Cantor pour un fou quand il a amené ce genre de résultat. C'est l'idée de se dire que les ensembles infinis, même s'ils sont infinis ou grands, genre tous les entiers, ils ont quelque part une certaine taille, un certain poids. Et si on prend. Donc son idée fondamentale, c'est que pour essayer de faire correspondre des ensembles infinis, on va essayer de les mettre en relation. Donc, si je prends tous mes entiers, regardez plutôt les nombres pairs. Là, vous avez la. J'ai l'impression qu'à priori, des nombres pairs, il y en a moins. C'est bizarre de parler de moins, parce qu'il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 45, des nombres pairs. Il y en a une infinité. Et pareil pour mes vrais nombres. Mais, bon, on sent qu'à chaque fois, on fait 1 sur 2, donc quelque part, des nombres pairs, il y en a moins. Pas du tout. Si je remets mes nombres pairs sur la ligne du dessous, et la propriété, c'est que je peux faire un petit trait, qui à chaque nombre va lui donner un nombre pair associé, et à chaque nombre pair associé va lui donner un nombre pair. Un nombre pas pair, nombre de départ. Donc quelque part, je peux faire un petit bâton comme ça. Et énumérer tous les nombres, et énumérer tous les nombres pairs, et à chaque fois que je regarde un nombre pair, je lui mets un nombre pas pair en correspondance, et vice versa. Donc, pas de problème, nombre pair, même si apparemment c'est un sous-ensemble, voilà, les nombres pairs c'est un certain paquet, et les nombres entiers, les nombres N, a priori on a l'impression que les nombres pairs c'est une sous-partie de grand N, et on sait que c'est une sous-partie stricte, il y a du monde là. Et ce que dit Cantor, c'est quelque part, ces gens-là, il y en a autant que tout. Donc si jamais, habituellement, quand on prend des paquets comme ça, si on a un paquet et un sous-paquet strict, avec des gens en moins, évidemment le sous-paquet, il est de taille plus petite. Voilà, pof, contradiction, quand on parle de nombre entier, on peut avoir un sous-paquet qui est à la même taille que le paquet entier. Et d'ailleurs aussi, le contraire, là, les nombres impairs, même chose, hein. Dans les nombres impairs, j'en ai autant que de nombres pairs, et j'en ai autant que du contour. Donc quand on commence à parler de taille infinie, on a ce genre de choses sidérantes qui apparaissent. On peut trouver des infinis qui seront vraiment plus grands, et voire même énormément plus grands, que les nombres entiers. Et alors, l'exemple pratique, c'est les nombres réels. Ce qu'on appelle avec grand R. Les nombres réels, en fait, il y en a beaucoup plus. Parce que les nombres réels, quelque part, c'est un peu le même genre de choses. Un nombre réel, quelque part, la façon dont vous avez de le voir, c'est une suite de décimales.
Mais éventuellement, la suite de décimale, elle peut être très grande si jamais, par exemple, vous avez 1.33333333. Donc vous avez potentiellement une infinité de chiffres. Bon, quelque part, vous êtes en train de... Il y a moyen de dire, bon, bah, chaque chiffre, quelque part, c'est une suite infinie de choses. Mais après, le problème, c'est que les réels, il y en a plein. Donc, on peut trouver des tas de nombres réels avec chacun dans la réécriture décimale, des choses comme ça. La question, c'est, est-ce qu'on peut, pareil, arriver à mettre en correspondance tous les entiers des nombres réels? Tous les entiers avec le nombre en L. Après, il y a quelqu'un, le fameux Cantor, qui est venu avec une preuve excessivement jolie pour montrer que non, c'est pas possible de dire que ça, par exemple, ça va être entier, le réel 0, ça va être le réel 1, ça va être le réel 2, et d'arriver à numéroter tous les réels, et à la fin, espérer qu'on a croisé tous les nombres en L. Ça marche pas. Il y a, à chaque fois, si jamais on essaie de numéroter comme ça les choses, eh bien, l'argument de Cantor, l'argument diagonal, arrive à nous ressortir un autre nombre L qui n'est pas dans la liste. Donc comme ça, on n'arrivera jamais à mettre en correspondance les nombres entiers et les nombres réels. Donc les nombres réels, c'est une chose qui est beaucoup plus. Donc enfin, peu importe, disons que voilà, les nombres réels, on a commencé à travailler dessus et il y a des tas de choses qui n'étaient pas forcément des paradoxes. Maintenant, tout ça, c'est des choses qui sont communément admises et qui, à l'époque, froissaient énormément les gens. Donc, ils étaient en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces développements mathématiques bizarres dans lesquels on arrive à des conclusions étranges? Est-ce que c'est vraiment bien vrai tout ça? C'est aussi pour ça qu'on s'est posé des questions d'arriver à trouver des... voilà, donc, il y a des gens comme Cantor qui manipulaient des objets infinis et trucs, donc voilà, il fallait vraiment quand même se préoccuper de comment les manipuler de manière sûre. Voilà, et tout ça, ça a amené à la théorie des ensembles, qui est maintenant la base la plus fréquente des mathématiques. Voilà, 99,9% des mathématiciens utilisent ça. Ils ne le savent même pas. Et la théorie des ensembles, c'est justement une théorie qui permet de manipuler des objets éventuellement gros, sans tomber sur des contradictions au détour d'un chemin. Et alors, si vous voulez un nom derrière, c'est deux personnes qui s'appellent Zermelo et Franken, qui ont laissé leur nom à la théorie que tout le monde utilise maintenant. Voilà, donc, si jamais on regarde les apports du siècle dernier aux mathématiques, en particulier, il y a cette théorie de Zermelo-Franken, qui est le système que tous les mathématiciens utilisent, à quelques exceptions près. Par exemple, autour d'ici, vous trouverez des gens qui utilisent des systèmes différents parce qu'ils ont d'autres propriétés sympathiques. Mais bon.